Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue en ce lundi 22 février, sixième jour de notre marche vers Pâques. Aujourd'hui, notre méditation nous conduira vers les thèmes de la juste responsabilité et de la juste vie communautaire. Nous entrons dans cette méditation avec les mots du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Et voici la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, les versets 1 à 4. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui. Non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant un maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Gloire à toi, Seigneur. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 1, La vie, la mort et le prochain, cinquième partie. Si nous nous demandons comment la littérature du désert contribue à notre compréhension contemporaine de ce que c'est la vie communautaire chrétienne, la réponse se trouve dans les deux mots qui sont au cœur de la phrase d'Antoine par laquelle nous avons commencé. Vie et gagner. Trouver ma propre vie, c'est une tâche que je ne peux pas entreprendre sans mon prochain. La vie elle-même, c'est ce que je trouve dans la solidarité, et pas seulement dans le sens d'être ensemble, car parler de solidarité peut facilement aboutir à ne parler de rien de plus que de cela, mais dans celui d'être prêt à mettre de côté ma perspective sur la vie. Celle que je veux faire mienne, celle à laquelle je veux m'accrocher pour la posséder. La mettre de côté de sorte que l'annonce de l'Évangile puisse s'opérer par ma présence et par ma parole. Et avec le mot « gagner », il ne s'agit pas de réussir pendant que d'autres perdent, mais de réussir à en faire entrer d'autres en contact avec la réalité qui leur donnera vie. Une fois mis ensemble, ces deux mots nous poussent à considérer la manière dont nous réfléchissons à la vie communautaire d'une manière assez radicale. Et si le véritable critère d'une vie commune qui fonctionne comme il faut, d'une vie sociale qui a atteint sa pleine maturation, avait quelque chose à voir avec cette grande affaire qui consiste à nous faire entrer en contact les uns avec les autres, avec ce qui nous donne la vie, avec la possibilité de la réconciliation et de l'unité intérieure. Et si la plus sérieuse menace qui pesait sur la vie communautaire, c'était de faire obstacle au chemin d'unité intérieure de quelqu'un d'autre, parce que nous nous accrochons avec insistance à ce qui nous permet de nous auto-justifier. notre succès, pour utiliser ce mot qui n'est au fond pas très aidant, serait alors quantifiable seulement dans la mesure où ceux qui nous entourent découvrent un chemin de vérité et de vie. Et puisqu'il nous est difficile d'en juger depuis notre point de vue extérieur, nous pourrions ne jamais savoir si oui ou non nous avons réussi. Nous ne connaîtrions que nos propres batailles et nos propres faiblesses, à partir desquelles nous essayons de nous parler. Au-delà, qui sait? Nous ne pourrions nous confier que dans la présence fidèle de Dieu pour notre propre pardon, et dans l'appel incessant qu'il nous adresse à agir pour que d'autres soient réconciliés. Ainsi, un groupe humain qui fonctionnerait d'une manière juste, faisant ce que les groupes humains sont appelés à faire devant Dieu, serait un groupe dans lequel une de nos occupations principales serait un apprentissage intense au sujet des pressions qui nous conduisent à fuir la tâche que Dieu nous donne. Nous devrions développer des antennes très fines pour détecter toutes les formes sous lesquelles l'esprit de compétition nous domine et toutes les manières de penser qui nous font considérer, ouvertement ou secrètement, que notre succès est toujours aussi l'échec de quelqu'un d'autre. Cela suscite sans doute des idées pas très confortables au sujet du type de conflit que nous avons habituellement en Église. Inévitablement, nous réfléchissons en termes de victoire ou de défaite. Nous abordons telle ou telle controverse en nous disant qu'il faut la résoudre en conformité avec la volonté de Dieu, de manière à ce que nous puissions nous imposer en son nom. Ce n'est pas que la tradition du désert ignore les conflits, bien sûr. Ces documents nous viennent d'un âge qui ferait passer nos propres prises de bec pour des soirées mondaines. Simplement, il nous pose cette question. Est-ce que l'une ou l'autre de nos victoires, dans cette vie de débat constante et supposément revigorante, ne laisse pas certains d'entre nous encore plus irrémédiablement séparés de Dieu? Et il nous pose aussi cette question encore plus désagréable. Qu'allons-nous faire si c'est le cas? L'Église est une communauté qui existe parce qu'il y a eu un événement qui rend totalement inutile toutes nos tentatives d'auto-justification. La vérité et la miséricorde de Dieu ont été manifestées dans la figure concrète de Jésus. Et à travers sa mort et sa résurrection, elles ont effectué la transformation que Dieu seul peut effectuer. Elles nous ont dit ce que Dieu seul peut nous dire. Que Dieu a déjà assumé les conséquences si terrifiantes de nos propres échecs, si bien que nous n'avons plus besoin de nous épuiser en efforts angoissés pour nous réconcilier avec lui. Le but de l'Église est d'être une communauté qui montre cette transformation comme quelque chose dont chacun peut véritablement faire l'expérience. L'une des principales sources d'angoisse dont l'Évangile nous délivre, c'est le besoin de protéger l'image que je me fais de moi-même, comme quelqu'un de juste et de bon. Ainsi, l'une des caractéristiques les plus marquantes de l'Église devrait être d'être prête à abandonner tout ce qui peut ressembler à une compétition de la vertu, ou de la souffrance, ou de l'intolérance, ou de quoi que ce soit. C'est lorsqu'elle est un rassemblement de personnes qui se préoccupent avant tout de ne pas séparer les autres de leur espoir de réconciliation et de vie par leurs propres craintes et leurs propres obsessions, que l'Église témoigne vraiment du Christ, qui seul répond à tous nos besoins. Une communauté saine est une communauté qui s'efforce de rester connectée à Dieu en aidant les autres à se connecter à Dieu. Une communauté dans laquelle nous gagnons Dieu en nous convertissant les uns les autres et où nous nous convertissons les uns les autres en ayant une conscience véridique de nos fragilités. Et une Église qui vit ainsi est la seule sorte d'église qui aura quelque chose de différent à dire au monde. Rien ne serait plus triste qu'une église qui n'offrirait rien d'autre que des moyens nouveaux et plus efficaces de réussir aux dépens des autres, remettant ainsi en place ce même système de bouc émissaire que la croix du Christ aurait dû faire exploser une fois pour toutes. Nous prions. Ô Père, tu es la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Tu es fidèle, et ta bonté dure toujours pour ceux qui te craignent. Tu n'as jamais abandonné ta création. Tu la soutiens jour après jour. Tu as envoyé des témoins de ta vérité. Tu as révélé ta loi à ton peuple quand tu as suscité des prophètes. Quand les temps ont été accomplis, tu as déchiré les cieux et tu es descendu jusqu'à nous dans la personne de ton Fils. Ta sagesse et ton amour ont été les plus forts. Seigneur, nous te remercions pour l'accomplissement de tes promesses et nous voulons te servir dans la joie jusqu'au retour de ton Fils. À toi, Dieu trois fois saint, l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen.